Je m'appelle Sterène et j'ai 9 ans. J'écoute l'émission depuis que je suis toute petite et maintenant, je connais le numéro par cœur. Alors je regarde si ça marche. Voilà.
Il y a 10 ans, le 15 février 1995, Nabila Jhanine était assassinée à Tizi Ouzou en Algérie par un groupe armé. Nabila était une militante des droits des femmes algériennes, une syndicaliste, une militante de gauche. Elle avait été les sans-droits, les sans-voix à s'organiser pour réclamer leurs droits. Elle était de tous les combats. Ainsi, elle aida les femmes de ménage de Tizi Ouzou à se doter d'un syndicat. Elle était une militante de terrain au contact des classes populaires pour la justice sociale et les droits démocratiques. Elle luttait sur deux fronts, contre les militaires et les islamistes. Ils ne l'ont pas supportée. Le 19 février 2005, à partir de 15h, un hommage lui sera rendu à la salle de l'UNSA, 21 rue Jules Ferry, à Montreuil, Bagnolet, métro Robespierre. Tous ceux qui partagent ces combats pour un monde plus juste, plus humain, plus féminin, sont invités à se joindre à nous. Merci Daniel, au revoir.
Salut Daniel, c'est François. Écoute, j'aimerais que tu m'expliques une chose. J'ai entendu sur France Inter la semaine dernière ou cette semaine, je ne sais plus, qu'un SDF était mort de froid. Et ce matin, j'entends sur Inter qu'Hervé Guémard loue un appartement de 600 mètres carrés pour 14 000 euros, bien sûr, aux frais du contribuable. Coluche disait « Réveille-toi, mon pote, ils sont devenus fous ». Je crois que ça s'applique plus que jamais. Allez, ciao, c'est François du Perreux.
Je vous téléphone au sujet de ministre de l'Économie et des Finances. Il y a pléonasme là, hein. Parce que je vois que ce pauvre homme, 8 enfants évidemment, il a quand même un duplex à 14 000 euros par mois, soit 91 830 de nos bons vieux francs. J'espère que les charges sont comprises à ce prix-là. Et puis, que c'est vrai qu'avec 8 gosses, il doit avoir beaucoup d'allocs familiales, hein. Ouais, pauvre homme. Mais peut-être que ces caves peuvent prendre les SDF des Champs-Élysées, hein? Non, mais vous ne trouvez pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Et puis on dit qu'il y a de la violence. Mais je comprends qu'il y a de la violence. Des gens qui se révoltent. Des gens qui se révoltent contre ces abus-là. Il faut les mettre, tous ces gens-là, avec leurs 8 gosses dans 80 mètres carrés, 100 mètres carrés, hein? Et puis leur faire vivre avec le SMIG. Rien qu'avec le SMIG. Plus ces allocs, hein? Il faudrait voir. Non, mais on nous dit de faire des économies. Et puis ces gens-là, 91 830 de nos bons vieux francs par mois. Charge comprise, peut-être. Oui, c'est sûr. Allez, salut.
Oui, bonjour. Je viens d'écouter avec beaucoup d'intérêt, avec passion même, l'émission de Là-bas si j'y suis sur France Afrique. Dans la même veine, je voudrais signaler aux auditeurs un excellent petit livre intitulé « Quand on refuse, on dit non », qui parle de l'histoire de la Côte d'Ivoire depuis la décolonisation. Histoire racontée avec beaucoup d'humour par Amadou Kourouma, qui est paru en septembre 1994 au Seuil.
Bonjour, Daniel Mémin, c'est moi, et une Togolaise à Saint-Brieuc. Ouf, Yadema est mort. On croyait qu'on va dire ouf, ouf, ouf. Et maintenant, c'est son fils qui reprend. Ouf. Est-ce que nous, les Togolais, nous sommes maudits ou quoi? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas du tout. Vraiment, Dieu va nous aider. On va s'en sortir de tout, dans tout ça. Ouf. 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 À très bientôt.
Je souhaite continuer d'aider ce pays et de faire du Togo un symbole pour l'Afrique, pour la libération de l'Afrique et la démocratisation de l'Afrique. J'invite tous les auditeurs de Là-bas si j'y suis, toutes les êtres qui aiment et qui respectent l'Afrique et le peuple africain, de laisser des messages sur le répondeur de Là-bas si j'y suis, des témoignages, des marques de soutien pour le peuple togolais. Et pour l'Afrique, au travers du Togo et de ce qui se passe là-bas, de ne pas hésiter d'avoir le courage de dénoncer la politique france-africaine qui dure depuis plusieurs décennies, depuis plus de 40 ans, et de maintenir l'information, la diffusion de l'information, afin que ce peuple puisse se libérer enfin de la dictature france-africaine avec Faure Yadema et le gouvernement, les services secrets français. Merci à vous. Je suis Steve Niatepeko Paradis. À Montpellier. Belle journée. Au revoir.
600 millions de dollars, c'est ce que l'affaire Executive Life devrait coûter aux contribuables français que nous sommes. 600 millions de dollars, c'est pas mal quand même, hein. Mais, et l'affaire Elf, vous vous souvenez de l'affaire Elf? Combien ça va nous coûter cette affaire Elf? Aujourd'hui, petite turpitude et grand détournement de la délinquance en col blanc, l'affaire Elf, la pompe Afrique de la France-Afrique, deuxième volet aujourd'hui. La pompe Afrique, l'une des pompes Afrique, on connaît les personnages, Loïc Le Floch Prigent, André Taralo, Alfred Sirvin, qui vient de nous quitter, 8 ans d'instruction, 4 mois de procès, l'affaire vient en appel dans quelques semaines. Une grande affaire, haute en couleur, mais la justice juge des personnes, des personnalités, mais n'est-ce pas, je pose la question, n'est-ce pas au détriment de la dimension politique du dossier Elf? Cette dimension, c'est celle, évidemment, vous l'aviez deviné, car vous êtes très malin, c'est la dimension de la France-Afrique, c'est-à-dire ce néo-colonialisme imposé par la France depuis plus de 40 ans et qui n'est rien d'autre qu'un pillage criminel de l'Afrique. Dow Neighbor. On pourrait prononcer comme ça, D-O-O-W-N-I-B-O-R. Si vous retournez, ça fait Robin des Bois, mais Robin des Bois à l'envers. Les Américains s'amusent à ça. Qu'est-ce que c'est qu'un Robin des Bois à l'envers? Ben c'est celui qui vole aux pauvres pour donner aux riches. Voilà ce qu'ils ont fait dans cette affaire Elf, mais qu'ils continuent à faire et que la France continue à faire de faire dans cette Afrique. Voilà pourquoi aujourd'hui nous continuons. Il y a d'autres raisons. Il y a aussi, les auditeurs l'ont évoqué, la succession des Yadema au Togo, une mascarade tragique, la mort d'Alfred Sirvin, liée à cette affaire, et puis un spectacle, le spectacle de Nicolas Lambert, et qui fait un tabac avec ce Elf, la pompe Afrique, où ce jeune comédien qui a observé, suivi de très très près le procès, eh bien joue tous les personnages tout seul. Il est tout seul en scène pendant 2 heures et il joue tout le procès. C'est bien foutu, c'est drôle, on rigole et puis on comprend quelque chose et puis on réfléchit. Il a inventé ou presque, on ne sait pas trop, mais enfin en tous les cas, voilà, c'est sa proposition, le documentaire théâtral. Et ça, c'est très intéressant parce que la crise des intermittents a réveillé une question endormie depuis longtemps sous une pile de résignation et de renoncement. À quoi servent ces bavards parasites? Hein, ces bavards parasites. Qu'est-ce qu'ils nous racontent des réalités du monde? Qu'est-ce qu'ils nous en disent? Comment ils le disent? Et à qui ils le disent? C'est une vieille question, depuis longtemps balayée sous le tapis de la consommation culturelle, de la production de produits culturels. Eh bien, il y a des propositions, il y a d'autres choses qui se présentent, et nos bavards parasites nous secoue aussi bien que d'autres, et peut-être mieux en ce moment. Voilà pourquoi nous sommes ensemble jusqu'à 18h dans la basse, si j'y suis, avec évidemment, puisqu'il est question de la France-Afrique, François-Xavier Verschave, l'infatigable animateur de l'association Survie, qui en France, mais aussi en Afrique, je pense que le message de cet auditeur africain n'y est pas pour rien, milite, se bat avec beaucoup de perspicacité contre cette France-Afrique-là. D'autres messages auparavant sur le répondeur de la basse, si j'y suis, au 01 56 40 37 37.
Allô, bonjour à toute l'équipe de la base, si j'y suis, c'est Ariel de Colombes. Ben pour tous ceux qui pensent que la gauche et la droite c'est pareil, je les invite à venir faire un petit tour à Colombes dans les Hauts-de-Seine. En 2001, c'est un maire RPF, Madame Guetta, qui a pris le pouvoir après 36 ans de communisme et de socialisme. Et on a vite vu le changement, couvre-feu pour les mineurs, fermeture des bars à 23h, police municipale armée, vidéosurveillance, promoteur immobilier, et surtout une attaque en règle de toutes les associations, moins 10% d'emblée et jusqu'à moins 90% pour les associations qui s'occupaient des immigrés, du sociale. Et maintenant, elle s'attaque à la MJC, une MJC historique qui a 50 ans d'existence. Et elle veut la reprendre en main parce que c'est sûrement un repère de gauchistes. Alors j'invite tout le monde à venir au conseil municipal demain à 19h devant la mairie pour protester contre cette remise au pas des associations. À bientôt à tous et bravo pour votre travail.
Eh hey Jaco, vu que tu vas au funérailles populaires de ton pote là, profite-en pour embarquer quelques patrons avec toi. Il y a peut-être des contrats juteux à signer, des trucs à reconstruire, des machins à bâtir. Ah puis sinon, merci hein, en fait pour ton pote Pinot. Il a bien profité du Crédit Lyonnais, maintenant c'est nous qui racontons. Privatisation des profits, socialisation des pertes, vive le libéralisme.
Bonjour, c'est Jacqueline Imbert de Marcenais. Alors moi je vais vous dire, par ces temps de grand froid, au lieu d'appeler le 115, envoyez les sans logis chez Guémard. 600 mètres carrés, il y a de quoi loger quelques personnes. Au revoir.
Salut à tous. Bon, comme apparemment le Parti Socialiste, l'UMP, les Verts, ils sont pratiquement tous d'accord pour voter oui. Je vais vous donner une liste de gens qui font partie d'un comité pour dire non à la Constitution. Parce que cela, de toute façon, vous les entendrez pas sur France Inter. Quentin Dauphine, Laurent Pérez, Alain Fortuit, Denis Gorteau, Frédéric Chauvreau, Marc Hilary, Marc Boulard, Madeleine Boulard, Hélène Sénéquier, Roger Jiménez, Maryse et Daniel Colombo, Yuri Le Janou. Bon, la liste est énormément bien longue. Pour revenir sur tes émissions, Daniel, il y a souvent un trait au devoir de mémoire. Je voudrais savoir ce qu'on fait du devoir de mémoire avec les SDF qui sont morts de froid hier. Est-ce qu'on doit les mettre de côté pour essayer de s'en rappeler dans quelques années ou est-ce qu'on doit s'en rappeler tout de suite? Et puis, par rapport à l'émission avec Marc Ferro sur la notion d'engagement et à un moment donné où les gens franchissent le pas, c'est pareil par rapport aux SDF qui meurent dehors. Qu'est-ce qu'on fait? On tourne la tête? On garde ça pour les repas de famille du dimanche, pour pouvoir s'indigner en famille avant d'aller regarder téléfoot. Bon, s'il y en a des fois qui veulent discuter de tout ça et de bien d'autres choses, tous les lundis, tous les mercredis, on est à 19h devant la gare de Saint-Raph. Après, on fait le tour des squats où il y a des SDF qui sont dans les caravanes. Ciao, viva, portez-vous bien. Il y avait du monde dimanche à Nice pour le carnaval indépendant. Il y avait du monde 3 jours plus tôt pour la manif contre l'OTAN. Il y a quand même des gens qui prennent des risques pour descendre dans la rue. Allez, portez-vous bien, à bientôt. Si vous venez ce soir, amenez de quoi manger et des couvertures. Ciao, viva.
J'ai toujours eu de l'admiration pour vous. J'ai toujours su que vous seriez avec nous. Je vous emmène dans nos nouvelles colonies à l'africaine.
Prédateurs tentaculaires,
aux boulimies monopolistes,
aux technocrates mercenaires,
quand la finance a ses artistes,
au terrain de jeu au soleil,
aux chaises longues pour politique,
Bolloré, Bouygues, Vivendi, Elf,
se servent sur la pompe afrique,
Bolo Poli, Bolo Réseau,
Bolloré voyage au Congo,
Bolloré crée son arsenal,
rejoint la cour du général,
Bolocratie, Bolo la pieuvre,
regarde les devises qui pleuvent,
en Afrique l'immaculée. Intérêt pétro-meurtrier.
Pendant que l'Angola se viole, nous on fait l'amour dans le pétrole.
Guinée, Togo, Bissau, Biafra,
on est mouillé jusqu'au Rwanda.
On a dopé vos dictateurs.
Vous voyez que la France a du cœur.
J'ai toujours eu de l'admiration pour vous. J'ai toujours su que vous seriez avec nous. Je vous emmène dans nos nouvelles colonies à l'africaine.
Salut, c'est Daniel Mermet, là-bas j'y suis, avec François-Xavier Verchave et Nicolas Lambert, Elf, la pompe afrique de la France-Afrique.
Flight number 2, arriving from...
Alors ce qui nous réunit aujourd'hui, François-Xavier Verchave, c'est deux morts et un vivant. Hein? Deux morts et un vivant. Les deux morts, c'est Eyadema, au Togo. Le deuxième, c'est Alfred Sirvin. Voilà pour les deux morts. Et puis il y a un vivant quand même, c'est Nicolas Lambert qui est là. Alors on dirait un nom à la Sampé, on dit qui c'est ce Nicolas Lambert. Ben Nicolas Lambert est comédien et il fait un tabac avec un spectacle qui s'appelle Elf la pompe Afrique. Et là c'est pas la France Afrique, c'est la pompe Afrique où Nicolas vous jouez tout seul le procès Elf.
Le tribunal. L'audience est reprise, vous pouvez vous rasseoir. Monsieur Alfred Sirvin, s'il vous plaît, approchez-vous. Monsieur Alfred Sirvin, vous êtes né le 6 janvier 1927 à Toulouse, engagé dans la résistance gaulliste à moins de 20 ans, puis dans le bataillon français de Corée en 1951, vous avez été blessé et cité 4 fois à l'ordre du mérite. Alors, le tribunal a lu également qu'à votre retour, vous reprenez des études de droit et vous vous portez candidat à l'école de la magistrature.
Et oui, mais j'en ai pas donné de suite, monsieur le président.
C'est plutôt la magistrature qui semble n'avoir pas donné de suite, monsieur. Vous abordez alors une longue carrière dans la gestion du personnel chez Mobile, puis chez Moulinex. Vous avez été ensuite l'adjoint de Serge Tchuruc chez Rhône-Poulenc, où vous rencontrez monsieur Le Floch-Prigent. Vous contribuez d'ailleurs en 1989 à sa nomination à la tête de la SNEA, Société Nationale Elf-Aquitaine, dans laquelle celui-ci vous nommera, dès son arrivée, directeur des affaires générales d'Elf. Y a-t-il une erreur, monsieur ? Il semblerait au tribunal que vous ayez perçu des revenus de l'ENA en 1987.
Alors là, je rêve.
Bien. Merci, monsieur Sirvin. L'audience est suspendue.
Le procès Elf, avec la pompe Afrique, le spectacle de Nicolas Lambert. Donc, il y a un personnage en moins. Aujourd'hui, Nicolas Lambert, dans votre spectacle, c'est Alfred Sirvin, enfin, qui vous a servi. On va dire Sirvin ou Sirvin ?
Sirvin.
Sirvin. Alfred Sirvin,
qui... Je n'en suis pas breton.
qui vient de disparaître, là. Donc, voilà, maintenant, il parle toujours, mais c'est par votre voix et dans votre spectacle.
Oui, j'incarne en tout cas les propos qui ont été tenus dans le cadre de ce procès, dans lesquels il se défendait d'être le seul. C'était un petit peu ce qui était le leitmotiv de chacun. C'est bien sûr j'ai fait ça, mais j'étais pas le seul. Bien sûr, Elf faisait ça, mais on n'est pas les seuls. Pourquoi voulez-vous qu'on paye pour un système qui est... Alors, le Floch-Prigent disait, attention, c'est pas occulte, c'est juste opaque. Nous, on essaye juste de pas être trop visible. Mais c'est un système qui est celui que nous demandent d'avoir les plus hautes autorités de l'État.
François-Xavier, ce sont des pieds nickelés qui ont été jugés dans ce long procès qui a quand même duré 4 mois.
Non, ce sont pas des pieds nickelés parce que André Tarallo et Alfred Sirvin sont quand même des personnages tout à fait considérables. C'était des plaques tournantes, des pivots. Mais on s'est arrêté à ce niveau-là. C'est-à-dire que au-dessus, il y a les vrais responsables politiques et militaires de la France-Afrique, parce que la France-Afrique est une entreprise politico-militaire avec les services secrets, et ceux-là n'ont pas été vraiment mis en cause. Au contraire, le procès Elf a été organisé comme une sorte de coupe-feu pour qu'on n'aille pas au-delà.
Monsieur Loïc Le Floch-Prigent.
Monsieur Alfred Sirvin.
Monsieur Sirvin, approchez-vous un instant, s'il vous plaît.
Le tribunal.
Confirmez-vous qu'il y avait, monsieur, des financements d'hommes politiques français chez Elf?
Ce n'était un secret pour personne qu'Elf servait depuis toujours à ces choses-là.
Quels sont les intérêts?
Est-ce que toutes les opérations donnaient lieu à des versements de fonds occultes, monsieur?
Que nous découvrions. Il me semble que vous le savez mieux que moi, c'est la raison de ma présence ici. Nous avions besoin de dégager des fonds.
Quels sont nos intérêts?
Les commissions. Monsieur Tarallo, s'il vous plaît, approchez.
Les commissions. Dans le domaine pétrolier, on parle de bonus. Il y en a de plusieurs sortes, les bonus officiels, prévus par les contrats. Par exemple, la compagnie pétrolière qui convoite un permis d'exploration s'engage à financer la construction d'un hôpital, d'une école, d'une route. Si à la fin ça se termine dans un orphelinat, je suis content, mais ça ne se termine pas toujours dans un orphelinat. Voilà.
Peut-être faut-il que je développe un peu.
Voilà. Impossible.
François Mitterrand.
De proposer un système tout fait. La France n'a pas à dicter je ne sais quelle loi.
L'audience est reprise. Vous pouvez vous rasseoir.
Le tribunal.
Monsieur Loïc Leflocq-Méjean. Monsieur, vous nous avez bien dit que vous connaissiez l'existence d'une caisse noire destinée à financer les partis politiques.
Tout à fait.
Madame la greffière, notez s'il vous plaît cette phrase. Il ne pouvait en être autre.
Tout à fait.
J'en l'ai déjà dit, j'ai financé tous les partis.
C'est comme chiant.
Enfin, démocratique, à l'exception du Front National.
Je ne peux pas y croire. Je n'y crois pas.
Bon, il est bien évident que si jamais un homme politique français est financé par Omar Bongo ou par tel autre responsable africain, ce type de retour, je l'inclus dedans. C'est toujours de l'argent d'elfe.
Voilà.
On va appeler un chat un chat. Elf a été créé pour maintenir l'Algérie et les rois nègres dans l'orbite française par le biais du pétrole. Avec les Algériens, ça a capoté. Avec les rois nègres, ça se poursuit.
On a assisté à ce procès, du moins vous avez assisté, Nicolas Lambert, pour nous à ce procès. Maintenant, vous nous reconstituez à votre façon, tout seul en scène, ces 4 mois de procès avec ces 37 personnages. Hein, il y avait 37 personnages.
37 prévenus, ouais.
37 prévenus. Voilà, vous tout seul sur la scène, vous nous racontez tout ça. Mais est-ce que, comme dans d'autres cas, dans d'autres procès, c'est pas là une mise en scène que la justice constitue forcément, qui permet de dissimuler tout le l'arrière-cour ou l'arrière-plan politique de cette affaire de France-Afrique.
Ça y ressemble. On a affaire à un premier discours qui est celui de Elf qui demande à ces gens-là d'avouer si ou non ils ont détourné de l'argent public pour des fins personnelles. C'est ça qui doit être jugé. Finalement, en soulevant la couverture, on se rend compte que cet argent, bah, quand il allait sur des comptes personnels, c'était effectivement pour aller dans la direction de tel ou tel parti politique. Et quand bien même c'est tel parti politique, bah, en fait, il n'y a pas. Alfred Sirvin n'avait pas affaire juste, comme il le dit, au trésorier. Il y a des clans dans les partis politiques, donc il était chargé de répartir les différentes commissions dans ces différents endroits. Mais c'est pas le problème du tribunal. Le problème du tribunal, c'est de savoir si ces gens-là ont détourné de l'argent public pour des fins personnelles. Donc on revient à ce système-là, et on revient à cette question-là. Mais tout de suite, ce qui se dit, c'est aussi que, bah oui, mais Alfred Sirvin, il était le conseiller personnel du président Lissouba. De son côté, André Tarallo était le conseiller personnel...
du grand rival Denis Sassou Nguesso. Même chose en Angola, où il y avait Tarallo du côté du gouvernement et Alfred Sirvin du côté des rebelles de l'UNITA, tout ça entretenant des guerres civiles épouvantables.
Et Leflocq-Méjean gérait ça en disant, bon ben voilà, moi j'ai jusqu'à présent le fonctionnement, il est de mettre André Tarallo en direction des chefs d'État, Alfred Sirvin en direction des opposants, et puis voilà, on manœuvre comme ça jusqu'à ce que l'un ou l'autre prenne le dessus. Ce qui a quand même été dit par Leflocq-Méjean, notamment dans son livre Aveux, Elf avait 3 objectifs. Industriel, diplomatique et politique. Et lui, il considérait qu'on lui avait attribué ce poste comme celui d'un ministère bis de la coopération.
L'audience est reprise, vous pouvez vous rasseoir. Monsieur Loïc Leflocq-Méjean, s'il vous plaît. Monsieur Loïc Leflocq-Méjean, vous êtes né le 21 septembre 1943 à Brest. Après votre bac, vous étudiez à Polytechnique, à Grenoble, puis à l'université de Kansas City. Ingénieur, vous êtes fonctionnaire au ministère de l'Industrie et devenez le directeur de cabinet du ministre Pierre Dreyfus. Vous êtes ensuite nommé PDG de Rhône-Poulenc, mais la première cohabitation vous écarte en 1986. S'ensuit une période de traversée du désert au cours de laquelle vous rencontrez Madame Fatima Belaïd, pour qui vous quittez votre première épouse. En 1989, le président François Mitterrand vous nomme PDG de la Société Nationale Elf Aquitaine, SNEA, que vous devrez quitter 4 ans plus tard, lors de la deuxième cohabitation. Vous serez nommé à ce moment-là à la tête de Gaz de France, puis en 1995 à la direction de la SNCF. Le tribunal mentionne enfin que votre titre d'officier de la Légion d'honneur vous a été remis par François Mitterrand. Est-ce exact, monsieur Le Floch-Prigent ?
En effet, monsieur le président, et mon adresse actuelle est Allée des Tuyas, à Fresnes.
Bien, merci, monsieur Le Floch-Prigent. Vous pouvez vous rasseoir, monsieur.
Ça nous donne l'occasion de retracer peut-être un petit peu François-Xavier Verschab, l'histoire de Elf. Je me souviens, quand j'étais gamin, des ronds rouges, ils arrivent. Hein. Elf, c'était au début des années 60. C'était présenté comme le moyen d'assurer notre indépendance pétrolière, quand même, Elf.
En fait, il y avait déjà Total. Mais Total n'était pas assez bien contrôlé par le pouvoir politique gaulliste. Donc, De Gaulle a chargé Pierre Guillaumat, l'un de ses fidèles, de créer cette entreprise qui allait à la fois servir à trouver et à vendre du pétrole, mais surtout à servir de caisse noire de la France-Afrique et de support financier de tous ces mauvais coups.
C'est ce que dit Nicolas Lambert, quoi. Trois fonctions industrielles, diplomatiques et politiques.
Oui.
Et c'était donc aussi explicite que ça dès le départ, non?
Tout à fait, bien sûr. Oui. Bien sûr. Et une des fonctions qui était de ramener de l'argent pour le financement des activités politiques en France, et puis la corruption, disons aussi, de la classe politique, de manière à acheter son silence, ce n'est pas le seul usage. L'autre usage très important, c'était de financer l'action des services secrets français en Afrique, dans les différents coups d'État, guerre civile, tout ce que le Parlement français n'aurait pas forcément voté facilement.
Bon, vous nous éclairez sur les raisons des silences de la classe politique et des médias, mais enfin, il y a une opinion en France. Pourquoi est-ce qu'aussi longtemps, l'opinion, aussi mal éclairée fut-elle, se montre aussi indifférente, alors que le contribuable français, lui aussi, est spolié dans cette affaire? Les Africains, on a compris, sont volés, dépouillés de leurs propres biens, de leurs matières premières, on a compris, mais aussi bien nous autres.
Oui, la non-réaction de l'opinion est pour nous effectivement la question la plus centrale, lancinante. Bien sûr, l'opinion a été roulée, elle a été désinformée. Mais en même temps, il y a eu des livres de temps en temps qui sont parus, des bouts d'articles, de reportages. Mais je crois aussi qu'une grande partie de l'opinion française ne veut pas vraiment savoir. D'abord parce que quand vous découvrez cela, ce qui a été notre cas, et que j'ai retranscrit par exemple dans un livre comme La France-Afrique, eh bien, vous êtes cassé en deux. Quelque part, toute votre représentation de la grandeur de la France, elle vole en morceaux. Et je connais des tas d'amis qui ont eu un mal fou à aller au bout de la lecture de mes livres. C'est un choc, c'est... On préfère continuer avec nos illusions de la grandeur de la France.
La France est un empire fait d'une métropole et de provinces lointaines qu'unissent les liens du cœur autant que ceux de l'intérêt. Cet empire s'est formé lentement, patiemment, par l'effort conjugué des explorateurs, des soldats, des missionnaires, des commerçants et des colons. 1830, conquête de l'Algérie. Nous avons pris pied sur la terre d'Afrique, y retrouvant la trace de Rome.
Mais ce que les Français ne savent pas assez, c'est que ce système les vole également, après avoir volé les Africains.
Quand est-ce qu'on sait, François-Xavier, est-ce qu'on sait dans ce que ça coûte par an aux contribuables français, cette France-Afrique? Vous avez chiffré ça?
C'est très facile à calculer, puisque aujourd'hui, sur l'aide publique au développement de 6 milliards d'euros par an, on est déjà à plus de 2 milliards, presque bientôt 50%, qui est tout simplement la remise des dettes, c'est-à-dire tout simplement on rembourse les gens qui n'ont pas été payés. C'est de l'argent qui ne quitte pas la France et qui est payé par les contribuables français pour réparer une partie des dégâts. À cela s'ajoute tout l'argent de ce qu'on appelle l'assurance crédit public, les contrats qui n'ont jamais été honorés. On a soi-disant vendu des choses pour des sommes énormes qui ont fait travailler les gens en France, mais ces contrats n'ont jamais été payés. Et finalement, c'est encore le contribuable français qui paye.
Attendez, comment ça marche? Moi, j'ai besoin de comprendre. L'aide publique au développement, moi, je me dis, c'est bien l'aide publique au développement. On a la France aide ces pays pauvres, ces pays malheureux. Donc, je suis pour l'augmentation de l'aide
publique. Mais nous le sommes.
Publique.
À condition qu'elle soit bien utilisée, qu'elle serve véritablement.
Expliquez-nous comment on pompe le fric. Comment fonctionne la pompe à fric?
entre mes impôts que je paye, moi, honnêtement, chaque année.
Eh bien, c'est très simple. Vous avez l'une des principales banques de l'aide publique qui s'appelle l'Agence française de développement. Cette Agence française de développement a prêté à des pays africains. Elle a prêté de l'argent qui a été aussitôt détourné dans le système dont nous venons de parler. Ces pays, ruinés, ne peuvent pas rembourser. Eh bien, à ce moment-là, on dit qu'on va annuler une partie de cette dette, et ce que le pays devait verser à l'Agence française de développement, c'est le Trésor public français qui va le verser en appelant ça aide publique au développement. Donc c'est de l'argent qui ne quitte pas Paris, qui va d'un compte en banque à Paris à un autre compte en banque à Paris, qui est appelé aide publique au développement, et qui sert tout simplement à éponger les dégâts de méga détournements qui durent depuis des décennies.
Ainsi dans la frigoire du fric. Ainsi dans la frigoire du fric. Ainsi dans la frigoire du fric.
Afrique esclavagisée, colonisée, matérialisée, dévalisée.
Ainsi dans la frigoire du fric. Ainsi dans la frigoire du fric. Ainsi dans la frigoire du fric. Ainsi dans la frigoire du fric.
Les montagnes de fric volées par la France-Afrique. Les tyrans complices, les gars dans les comptes en Suisse. Les poulevins des survins, les désirs des débits.
Ainsi dans la frigoire du fric. Ainsi dans la frigoire du fric.
Les complots du FMI et les blagues de la Banque mondiale. Des milliards d'euros volés par des bandes d'escrocs. Les fonds comptent de compte et les salles sous de sa soupe.
Ainsi dans la frigoire du fric.
Les montagnes de fric volées par la France-Afrique. Les présidents africains sont complices de ce trafic. Les coups fouet du fouet, les bombos des bongos, ya ya ya.
Ainsi dans la frigoire du fric. Ainsi dans la frigoire du fric.
Est-ce que l'Afrique doit encore?
Non.
Est-ce que l'Afrique doit encore?
Non.
François-Xavier Verschave.
Pourquoi il y a si peu de curiosité sur ces questions?
Alors, votre réponse?
Le cerveau humain a des morphines naturelles, je crois qu'on appelle ça les endomorphines, qui lui permettent de se protéger contre la douleur. Et là, on a des vérités tout à fait déplaisantes. Donc, le cerveau humain s'arrange pour maintenir ces vérités déplaisantes dans une sorte de flou, d'indécidable. Ah oui, peut-être que ce monsieur Verschave a raison, mais peut-être qu'il a tort. Donc finalement, on reste dans un espèce de flou, on sait bien que peut-être, mais ça n'atteint pas le stade où ça devrait changer le regard sur le monde et changer la décision, la position que nous avons par rapport à tous ces phénomènes. Et c'est cela le point de basculement. Et c'est vrai que quelque part, nous luttons contre cette autoprotection du citoyen français qui n'a pas envie de découvrir que son pays, par exemple, a été complice d'un génocide.
Voilà, hier soir, après l'émission, on est resté au moins pendant trois quarts d'heure entre nous dans le studio en train de discuter de ça avec Nicolas Lambert, le comédien, avec toute l'équipe de la Basse J'y suis. Pourquoi ça touche pas plus que ça? Pourquoi est-ce qu'un phénomène et un scandale aussi long, le plus ancien et le plus long scandale de la République, c'est comme ça qu'on a appelé ce système dénoncé par François-Xavier Verschave de survie dans son idée de la France-Afrique, eh ben il y a le kilomètre affectif aussi, c'est-à-dire que c'est loin, on a beaucoup de mal à s'identifier à un Africain, à une Africaine, un enfant, voilà, c'est pas chez nous, c'est pas des gens comme nous, c'est loin, ça nous regarde pas, c'est très difficile, ça demande un effort, faut pas se culpabiliser là-dessus, il s'agit pas de dire nous on y est allé et puis on revient comme des chevaliers blancs et puis on va vous coller des leçons de morale, etc. Donc bien sûr c'est difficile, mais voilà, on en est là et on essaye sans culpabilité aucune de prendre conscience. La culpabilité, on s'en fout, la conscience c'est tout. Nicolas Lambert. Nicolas Lambert, je reviens à vous et votre spectacle, c'est pas la même approche que Verschave. Vous, c'est une approche d'artiste, oui. Citoyen aussi, tout aussi citoyen, mais c'est une approche d'artiste.
Un désir de comprendre et puis après, quel que soit le média que je peux employer, d'essayer d'en être l'interprète. Et j'ai passé les trois premières semaines de ce procès à ne rien comprendre. J'étais cloué, scotché sur mon siège, en entendant des propos qui sont ceux-là, qui sont, mais oui, mais enfin, il était tout à fait normal que cette caisse noire serve à financer tel parti politique. Mais évidemment, elle servait à ça, bah oui. Et vous, monsieur Tarallo, vous confirmez, bah, oui.
Le tribunal.
L'audience est reprise, vous pouvez vous rasseoir. Monsieur André-Antoine Charles-Napoléon Tarallo, vous êtes né le 5 avril 1927 à Centurie, en Corse. Vous êtes aujourd'hui retraité et consultant domicilié à Genève. Votre formation passe par Sciences Po, vous êtes ensuite énarque de la promotion Vauban, qui compte d'ailleurs dans ses rangs le tribunal de notes d'illustres personnalités, comme le président de la République actuelle. Vous entamez d'abord une carrière d'administrateur civil au ministère des Finances, puis vous entrez chez ELF en 1967. Alors très vite, le fondateur de la société ELF, Pierre Guillaume, fait appel à vous pour travailler à ses côtés sur la politique africaine du groupe. Vous avez été surnommé le focard du pétrole, monsieur. Ça n'est sans doute pas désobligeant. Le tribunal note que vous êtes marié, monsieur, avec Colette, et que votre carrière connaît une prolongation exceptionnelle, hein, bien après l'âge de la retraite.
Oui, c'est vrai. Au début, le président Guillaume m'a fait rencontrer l'Afrique, et l'Afrique, c'est quelque chose de très compliqué, monsieur le président. Sur le terrain, je me suis mis à véritablement aimer l'Afrique. Et
oui, et c'est vrai que quand on aime, on ne compte pas. Vous comparaissez pour délit d'abus de biens sociaux et de recels aggravés. Quand on énumère la liste des virements qui arrivent sur vos comptes, après avoir transité d'abord par les comptes suisses de monsieur Alfred Sirvin, ce sont près de 300 millions de francs qui peuvent vous être reprochés. La question du tribunal est précise. Répondez clairement et précisément qui donnait instruction de créditer vos comptes, monsieur.
L'instruction de virement elle-même était soumise à Loïc Le Floch-Prigent. Sinon, elle n'aurait pas pu exister.
Donc, ces virements n'ont pu être faits que sur l'instruction de monsieur Loïc Le Floch-Prigent ?
Il ne pouvait en être autrement.
Et notez, s'il vous plaît, madame la greffière, cette phrase. Il ne pouvait en être autrement.
François-Xavier, qui était André Tarallo ? Enfin, qui est André Tarallo ?
André Tarallo, non, il ne l'est plus. C'était le monsieur Afrique Delf, c'est-à-dire le responsable des contacts avec du management des chefs d'État africains, dont il faut préciser, c'est très important, que ces gens-là étaient des salariés d'Elf. Alors, évidemment, on comprend bien que pour les peuples concernés, c'était pas leur intérêt qui était défendu, puisque leur chef d'État était payé par Elf, était abonné par Elf. C'est quelque chose d'hallucinant. C'est comme si, imaginez, nous avions de grandes richesses, d'immenses richesses en France, de pétrole ou autre, qui soient exploitées par une société américaine, et que notre président de la République soit salarié par cette entreprise américaine. On imagine quand même que ça ferait un peu désordre.
La France-Afrique, pompe Afrique. Un ex-dealer d'héros, promu ministre de l'Intérieur, sous ouais. Couvert des services secrets, la mafia a fait sa loi. J'ai de la peine à le croire, vivons-nous en République, protège tes arrières, en France, Afrique, y a peu de témoins. Les chants du déshonneur, ils ont nié le génocide, financé les massacres pour conserver leur influence. Dix et Mitterrand, un jour de 94, dans ces pays-là, ça n'est pas trop important. Je sais qu'on désinforme, 10 ans, y'en a rien capté, le récit de la langue française valait plus que 800 000 morts. Service secret, les dictats de l'Occident, tue les présidents s'ils refusent d'être des collabos. Dictateur, gouverneur à peau noire, on compte sur l'ignorance et l'indifférence. Le cash flow à l'abri dans les paradis fiscaux, je milite pour l'abolition. La tête des milliards planquée dans des comptes en Suisse. Ça m'a l'air d'un mauvais rêve, ça sort d'un film d'horreur. Me faites pas croire, c'est les Africains qu'on assiste. L'exploitation, ça se paie, demande aux contribuables. Les pauvres des pays riches paient, les riches des pays pauvres. Le colonisateur tue, torture, des millions de vies tritures, l'indépendance une rature, un quadrillage sur les territoires, l'urgence nous pousse à rester terre à terre, terre à terre.
Vous parlez, l'un et l'autre, François-Xavier Gerchave et Nicolas Lambert, vous parlez tous les deux à l'imparfait. Vous dites « c'était ».
C'est on a.
Voilà. Alors, est-ce que c'est une page qui est tournée, celle de la France-Afrique, ou bien est-ce que ça continue?
Parce
qu'on dit maintenant, mais attendez, la France se retire ou se fait virer de cette de son précaré au profit d'autres États ou d'autres convoitises, les convoitises des multinationales, par exemple. Alors, est-ce que ça continue? Est-ce que c'est terminé? Où ça en est?
Je pense que c'est très important de tordre le cou à toute une série d'idées, de thèses, qui sont des thèses de propagande. L'idée que la France-Afrique est terminée, elle est née aussitôt que le concept a été victorieux. C'est-à-dire, dès que les gens se sont rendus compte que la France-Afrique, ça correspondait à quelque chose, aussitôt, d'innombrables articles, très argumentés, ont dit, mais tout ça, c'est terminé depuis 5 ans, ou depuis 10 ans. C'est comme Jacques Chirac disant en 1995, le financement parallèle des partis politiques, c'est fini depuis 1990. En 2002, il dit, c'est fini depuis 1995. Et en 2007, il dira, c'est fini depuis 2002. C'est-à-dire, en quelque sorte, on repousse dans un passé indéfini ce qui, en fait, continue toujours, pour des raisons très simples. Les mécanismes de détournement par les paradis fiscaux n'ont jamais été aussi prospères. Les paradis fiscaux se multiplient. L'argent qui passe par là atteint aujourd'hui la moitié des transactions financières internationales. D'autre part...
Hors contrôle des États.
Absolument. Tout contrôle, ouais. Comme les juges l'expliquent parfaitement. D'autre part, la présence militaire, le fait que toutes les armées de ces pays étaient formées par l'armée française et contrôlent encore au moins les 3/4 de ces pays. Tout ça, ça continue. On croyait qu'il y a des mâts, on allait être d'en débarrasser. Et finalement, on s'aperçoit que il a un fils, Baby Eyadema, comme autrefois Baby Doc pour le dictateur du Valier. Donc, tout ça, en fait, si on n'y met pas un terme, ça continue. Ce qui est un tout petit peu différent, et là aussi c'est une autre idée reçue, c'est que très souvent, on dit la France fait ça pour pas que ce soit les Américains. Les saloperies françaises, c'est comme un petit peu plus cultivé que les saloperies que vont faire les Américains. Je ne crois pas du tout qu'il y ait de différence en la matière, mais simplement, tout ça, c'est une propagande à usage subalterne. On s'aperçoit très bien que quand il s'agit de choses sérieuses, comme le pétrole angolais ou ailleurs, eh bien, les grandes multinationales françaises et américaines trouvent des deals et qu'elles s'arrangent. Quelque part, on nous fait croire qu'il y a cette rivalité, mais en réalité, il y a des alliances pour continuer à piller l'Afrique. Et le troisième point, qui est également un instrument de propagande, consiste à dire, mais tout ça, c'est pas une responsabilité des politiques, c'est une responsabilité des multinationales qui gouvernent le monde.
Oui, avec la mondialisation.
Mais tout ça, c'est pipeau. Parce que les multinationales, elles sont nationales, elles ont un siège national. Exxon, c'est une multinationale, mais Exxon, c'est les États-Unis, c'est Bush, etc. Total, c'est la France. Même si c'est une multinationale, toutes les multinationales, en fait, servent des intérêts nationaux et travaillent de manière prioritaire avec des politiques et des militaires nationaux, car toutes ces multinationales se font également protéger dans ces pays par le système militaire de leur pays d'origine. Donc, quelque part, évoquer la toute-puissance économique des multinationales, c'est gommer la dimension totalement politique du rôle de ces multinationales. En fait, c'est un agrégat entre l'économique, le politique et le militaire, qui fonctionne encore en partie au niveau national et qui, quelque part, trouve des arrangements autour de ce qu'on appelle le G8, Davos ou autre, et qui continue les mêmes problématiques.
Alors, François-Xavier, vous nous disiez quand même qu'il y a quelques pays, le Mali, Niger, Madagascar, Sénégal, etc., qui commencent à échapper.
Et encore plus dans les pays anglo-saxons, c'est-à-dire que et là, c'est aussi l'espoir de l'Afrique, c'est que de grands pays comme le Kenya, l'Afrique du Sud, le Ghana, etc., sont des pays où les peuples choisissent librement leurs dirigeants.
Alors il y a cet espoir-là, puis il y a aussi un autre espoir, c'est le succès du spectacle de Nicolas Lambert quand même. Mais c'est ça qu'il faut jamais perdre de vue, c'est qu'il y a, il y a des peuples, il y a des populations, il y a des gens, des femmes, des hommes et des enfants qui morflent, qui souffrent et qui sont et qui trinquent depuis si longtemps dans leur vie quotidienne, ces misères, ces images. C'est très difficile de séparer le mot Afrique de la pauvreté, des images de pauvreté. Cette pauvreté, elle est liée à cette néocolonisation que vous décrivez.
Ce qui est hallucinant dans le procès Elf, c'est que le seul plaignant, c'était Elf, qui continue les mêmes pratiques. Il n'y avait pas les peuples africains, parce que les véritables plaignants, ceux qui sont les victimes de tout ça, c'est les peuples africains. Et aussi, accessoirement, les contribuables français, qui doivent éponger tout ça. Mais, au départ, les principales victimes n'étaient pas représentées. Et c'est pour ça que ce procès, quelque part, il a pu jouer ce rôle de coupe-feu.
Alors Nicolas, oui, réaction du public africain qui vient, des Africains qui viennent nous voir.
Oui, une réaction de... Là, c'est une réaction d'émotion. C'est très affectif et de dire, mais c'est étonnant d'entendre enfin ce discours-là. Comment se fait-il qu'on ne l'entende pas ailleurs? Comment ça se fait que c'est à ce point contenu?
Alors, réaction donc de ce public africain. Il y a des cadres de Elf qui viennent vous voir aussi?
Oui, alors là, il y en a...
Les repentis?
Il y en a un paquet, mais aussi d'autres entreprises actuelles qui me disent, c'est super ce que vous dites, parce que c'est exactement ce qui se passe dans ma boîte. Ben, je vais amener ma famille, parce que c'est bien qu'ils comprennent ça.
Des juges, des magistrats.
Ah, il y a aussi des juges, des magistrats ouais, proches du procès aussi, d'ailleurs, qui sont venus, ou des responsables d'Elf très proches de ceux qui sont jugés, oui.
François-Xavier, c'est quand même encourageant, ça, non?
Oui, et puis je
faut
pense que
qu'on ait une petite raison.
Mais j'allais dire, il y a des choses encore beaucoup plus encourageantes. C'est les réactions africaines, parce que tout le travail que nous avons fait et qui est peu connu en France, il est extrêmement connu en Afrique. C'est-à-dire que quelque part, les gens commencent à comprendre comment ils sont opprimés, pillés, et on voit bien également qu'il y a des réactions beaucoup plus institutionnelles qui se mettent en place à travers la montée en puissance formidable de l'Union africaine, qui sur l'affaire du Togo, par exemple, n'a pas mâché ses mots.
Oui, très présente.
Donc,
oui.
Il y a évidemment la réaction viendra d'abord d'Afrique. Ce qui est aussi pour moi une source d'espoir importante, c'est la réaction des artistes africains. Par exemple, nous avons lancé une campagne contre la perpétuation du soutien français aux dictatures africaines. Et puis il y a un tas d'artistes africains, de chanteurs, de reggae, de rap, d'autres qui se sont réunis pour rassembler leurs talents dans un CD assez extraordinaire pour dire aussi leur envie d'émancipation. D'ailleurs, le titre s'appelle « Africa wants to be free », l'Afrique veut être libre, il est tout à fait explicite. Donc, il y a un engagement de plus en plus fort au niveau des opinions. Et je crois que ce sera sûrement le moteur principal de la fin de cette France-Afrique archaïque et insupportable.
François-Xavier, je sais ce que les auditeurs vont dire. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous? Qu'est-ce qu'on peut faire à notre niveau?
Moi, je demanderais une seule chose à mes concitoyens. Avoir le courage d'ouvrir les yeux.
Le tribunal.
L'audience est reprise. Vous pouvez vous rasseoir. Monsieur Loïc Le Floch-Prigent, s'il vous plaît.
Pensiez-vous aussi, monsieur Le Floch-Prigent, servir l'État et la République en ne répondant pas aux provocations de la justice et en contraignant madame la juge Eva Joly, chargée de l'instruction de ce dossier, de vous arrêter, monsieur, et de mettre en prison ainsi le président de la SNCF que vous étiez alors?
Les plus hautes autorités de l'État m'avaient en effet demandé de ne pas répondre à la convocation de cette magistrate au début de l'enquête.
Qui, monsieur Le Floch-Prigent?
Le président Jacques Chirac, qui est au courant de tout ce que je sais, exactement comme Mitterrand l'était, comme le premier ministre Alain Juppé et plusieurs autres ministres ou anciens ministres, Bernard Ponce, Nicolas Sarkozy. Jacques Chirac m'a dit « ça n'ira pas jusqu'à la mairie de Paris ». Je dois avouer que, sur le moment, je n'ai pas compris à quoi il faisait allusion.
Pas d'autres questions? L'audience est suspendue.
C'est une seule voix. On vient d'entendre là une seule voix, celle d'un seul comédien, Nicolas Lambert, qui est l'auteur et le seul comédien de Elf, la pompe Afrique, le spectacle qu'il présente actuellement. Et si vous voulez le voir, deux dates parmi d'autres, dimanche 20 février à Paris, à la coordination des intermittents et précaires d'Île-de-France, 14, 16, quête de la Charente dans le 19e arrondissement. Et dimanche 27 février à 17h30 à Bagnolet, à la Fonderie, métro Gallieni à l'initiative de Survie, à l'occasion de la sortie du disque dont on vient de parler, Africa Wants to Be Free, 16 artistes contre la dictature et le néocolonialisme. L'association Survie, c'est www.survie-france.org. Merci à François-Xavier Verchave, à Nicolas Lambert. Toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter à la rubrique émission La Basse J'y suis. Technique aujourd'hui, Nadège Antonini et Carole Sandevoir. L'équipe de La Basse J'y suis, c'est Antoine Chao, c'est Yann Chouquet, c'est Pascal Pascariello et c'est Christophe Imbert. Le numéro du répondeur, vous le connaissez, c'est le 01 56 40 37 37, 01 56 40 37 37, et le mail daniel.mermet@radiofrance.com. Dans 1 minute et 5 secondes de pub, vous retrouvez Charivari avec Frédéric Bonneau. On se retrouve, nous, demain à 17h pour La Basse J'y suis. D'ici là, salut.